Le logement social est un sujet qui est sur toutes les lèvres, qui fait les manchettes régulièrement. Le coût des logements a explosé. On voit régulièrement des familles sur le pavé le 1er juillet, incapables de se reloger pour des personnes aux revenus modestes ou qui ont des situations plus complexes, de trouver des loyers raisonnables pour avoir un toit sur la tête. Ben, c'est pas un droit acquis, malheureusement. Par ailleurs, souvent, les solutions que le gouvernement nous propose ou propose à l'industrie sont lourdes et longues et parfois, ça tue dans l'œuf des projets. Cela dit, voilà maintenant, on a le plaisir de recevoir avec nous M. François Giguère, directeur général de la Société locative d'investissement et de développement social, Solide. Et M. Giguère, vous allez nous conter. J'aimerais que vous nous expliquiez votre modèle d'affaires, parce que faire du logement social sans fonds publics, ça a l'air presque magique.
Oui, et pas tout à fait réaliste. Alors, premièrement, ben, bonjour tout le monde.
Bonjour, M. Giguère.
Bonjour, M. Beauregard. Oui, c'est ça. La presse a titré que notre projet d'acquisition qu'on a fait à Drummondville il y a quelques mois avait été fait sans fonds publics. Et il est vrai que Solide fait beaucoup d'acquisitions immobilières dans le marché privé. Donc, Solide, c'est un organisme à but non lucratif. On fait beaucoup d'acquisitions immobilières dans le marché privé. Sans subvention. Cependant, ça ne fait pas des logements neufs, ça ne fait pas des logements qui ont des rénovations majeures. Donc, c'est pas des logements non plus qu'on peut adapter pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Et ben, les loyers ne sont pas immédiatement abordables. Alors, puis vraiment, ce qu'on a fait à Drummondville, c'était particulier. C'est un environnement en dehors du code règlement 514, du cas 50, où le coût d'acquisition des immeubles était raisonnable, contrairement à ce qu'on voit dans la grande région métropolitaine de Montréal. Alors, oui, c'est possible, mais c'est pas non plus une panacée.
Oui, tout à fait. C'est pas un truc, c'est pas magique, et ça demande de la patience, mais d'une autre manière.
Oui, effectivement, nous, on a créé Solide il y a presque 25 ans, et ça a été très long à ce que ça devienne opérationnel, fonctionnel, que ça devienne viable financièrement. Ça a pris plusieurs années avant que ça le devienne. Là, maintenant, on a des acquis. Il y a des immeubles qu'on a achetés il y a 15 ans, 20 ans, qui, tout en étant abordables et rénovés, dégagent quand même des surplus. Alors, ces immeubles-là nous facilitent le travail pour intégrer des nouvelles acquisitions qui pourraient être déficitaires ou qui seraient à peine viables. Donc, on a comme un actif sur lequel on peut s'appuyer. Pour les personnes qui ont des besoins comme pour un logement adapté, en général, ça va être à travers des programmes de réalisation de logements avec du financement public qu'on va y arriver. Le problème, c'est que ces programmes-là sont sous-financés depuis très longtemps et embourbés. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du programme Accès Logis.
Oui, tout à fait.
Vous en avez parlé. Donc, c'est embourbé dans beaucoup de méandres administratifs, des cul-de-sac qui ont été créés par la Société d'habitation du Québec, qui fait que les projets, malheureusement, ne lèvent pas aussi vite qu'ils le devraient.
Oui, tout à fait. Ben, j'ai été aux premières loges de quelques projets de ce domaine-là dans une autre vie, et d'essayer de piloter ou aider à piloter des dossiers ou voir des gens qui tentaient de le faire. Et quand je disais tout à l'heure que la bureaucratie très lourde souvent tuait les projets dans l'œuf, ben c'est un petit peu à ça que je faisais référence, là, tout à fait.
D'accord. Vous y avez goûté, d'accord. Alors, oui, donc c'est très difficile et c'est triste parce que les groupes de ressources techniques, les organismes du milieu mettent de l'avant de très beaux projets qui répondent à des besoins réels. Malheureusement, ces projets-là ont de la difficulté à lever à cause des entraves qui sont mises là, dans leur chemin.
Dans ce que Solide fait, parce que tout de même, votre façon, il n'y a pas beaucoup d'autres organismes qui font tout à fait ce que vous faites. Comment vous avez dû développer des partenariats avec des entreprises ou des institutions qui comprenaient, je dirais, la mission de la mission de Solide?
Oui, et puis il y a eu un parcours. Hein. Je vous dirais que la première personne qu'on a rencontrée dans une institution financière, puis qu'on lui disait qu'on n'avait pas d'argent, puis qu'on voulait acheter des immeubles pour louer à des gens qui avaient des faibles revenus, puis elle avait tellement hâte qu'on quitte son bureau parce qu'on était des Martiens.
Oui.
Maintenant, on a effectivement un réseau là, d'institutions financières. La première, c'est évidemment la Caisse d'économie solidaire, mais il y a également la SCHL, qui est un programme de garantie de prêt hypothécaire qui s'adresse à tout le monde, initialement au marché privé, mais maintenant à tout le monde. Donc, ce programme-là, nous, on a fait quelques projets. Ça aide à réduire le coût d'intérêt et à avoir donc des meilleures conditions de prêt. On a des prêteurs. On a un prêteur qui est basé à Toronto et Vancouver. Récemment, on vient d'avoir un prêt avec un capital patient de la part de la Fédération Lucie et André Chagnon. Donc, on a bâti une réputation qui est sur la base de nos réalisations, qui fait que eh bien, maintenant, on a accès à certains financements pour les acquisitions.
Mais oui, puis parce que ça demande quand même que vous ayez des bailleurs de fonds, parce que même si vous avez des immeubles que vous détenez depuis assez longtemps, il n'est pas toujours facile il faut les réhypothéquer ou les utiliser comme garantie pour des prêts, pour redémarrer d'autres projets. Encore une fois, il s'agit d'acquisition d'immeubles existants, là. Il faut trouver le bon immeuble au bon endroit au bon prix.
Oui, et puis effectivement, donc on utilise ce qu'on appelle l'équité, donc la valeur de l'immeuble moins sa dette. Donc on la met en garantie pour faire d'autres acquisitions. Dans le cas plus récent de Drummondville, où on a acheté 400 logements, presque 400 logements en un coup, c'est pas ce qu'on a fait. On a eu des prêteurs qui ont vraiment prêté 100% du coût d'acquisition des immeubles.
Okay.
Mais un peu plus tôt dans l'année, on voyait, on avait fait une acquisition à Montréal avec une subvention de la Ville de Montréal qui veut développer des milliers de logements abordables. Donc, on avait acheté à Lachine un immeuble de 7 millions de dollars avec une subvention municipale là, de presque 2 millions de dollars. Et quelques mois plus tôt, on a fait une autre acquisition de 30 logements à Longueuil. Et là, il n'y avait aucun financement public, aucune aide publique. On a utilisé un autre immeuble qu'on avait qui était adjacent à celui qu'on achetait.
D'accord.
Et on a utilisé l'équité sur celui-là. Donc, on a mis en garantie la valeur de cet immeuble-là. Donc, vous voyez, c'est trois projets dans la même année et c'est trois stratégies de financement différentes.
Oui, tout à fait. Et il a fallu trouver des gens qui étaient prêts à faire le pont pour vous. Ça, c'est une chose. Utiliser l'appui du gouvernement dans un autre cas. Puis, le troisième que vous venez de décrire, finalement, ça, c'est plutôt classique. On retrouve ça dans l'entreprise privée.
Oui.
Et les immeubles ou les projets de loyer modique qu'on voit couramment, cependant, n'ont pas le droit d'utiliser la valeur de l'équité des immeubles, là. Ils ne peuvent pas hypothéquer ce qui a été bâti et qui est étiqueté d'une façon, je dirais, institutionnelle comme étant du logement modique. Alors ça crée un frein au développement.
C'est un peu un héritage d'une époque où les gouvernements étaient en soutien aux organismes qui faisaient du logement social ou communautaire et que quand il y avait vraiment un problème que le groupe avait besoin d'argent pour refaire des fenêtres, qu'il n'y avait pas d'argent dans ses réserves, qu'il y avait eu différents problèmes, il y avait une présence gouvernementale pour l'accompagnement et l'aide financière. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Maintenant, les groupes sont pas mal laissés à eux-mêmes et même un immeuble, l'organisme aurait, disons, un immeuble de 3 millions de dollars, il reste quelques années à payer sur l'hypothèque, disons 250 000 dollars, ben son immeuble, il prendrait l'eau, la toiture coulerait, et il ne pourrait même pas le refinancer son immeuble pour faire ses travaux.
Non, exact.
Donc on ne peut même pour sauver l'immeuble existant,
même,
on ne peut pas
même pour protéger l'intégrité de l'immeuble et donc protéger le lien que le prêteur au-dessus, il ne pourrait
oui.
pas le faire.
Effectivement. Alors, on peut encore moins utiliser cette valeur-là pour faire une autre acquisition. Et c'est vraiment... Quelqu'un calculait il y a quelques années que là, le mouvement à but non lucratif en habitation a 5 milliards de dollars en immeubles.
D'accord.
Mais il est presque incapable d'utiliser sa valeur pour sortir des immeubles du marché privé.
Oui.
Alors, c'est un paradoxe incroyable. On est riche en building, mais on est pauvre en argent pour faire des bons gestes.
Mais c'est pour ça que votre modèle qui ressemble un peu à un hybride, et parce que vous avez des pratiques qui sont un peu celles du secteur privé, mais ça demande de la patience, parce que quand vous faites l'acquisition d'un immeuble, même si vous l'avez ciblé parce que ses loyers sont modiques par rapport au marché, avant que ça devienne, je dirais, l'équivalent d'un logement social, ça prend quand même un peu de temps, parce que il y a la situation au départ des loyers qui sont déjà en vigueur.
Oui, tout à fait. Ça va prendre des années, là. Sauf que les locataires le voient rapidement l'impact, parce que déjà, ils vont voir un meilleur entretien. Il y a des immeubles qu'on achète, pas tous. Celui de Drummondville est en très bon état. Mais il y a des immeubles qu'on achète, c'est catastrophique l'état dans lequel ils sont.
Oui.
Et les locataires qui ont vécu, on en a un, là, les locataires nous disent, ça fait 15 ans qu'on a décoré les punaises dans tous les logements. Et en 5 mois, vous avez réglé ce problème dans tout l'immeuble. Les gens voient d'ailleurs tout de suite des meilleures pratiques en entretien, en rénovation, on assure la sécurité, la santé des locataires. Parce que ils voient que tous leurs voisins ont des hausses de loyer faramineuses et nous, on arrive avec notre petite hausse de loyer de 2%. Bon, ça rend pas le logement beaucoup moins cher, mais si on fait ça pendant 10 ans,
Oui.
ben, la 9e, 10e année, les gens voient qu'il y a un écart de 20%, 30% avec leurs voisins et que leur logement est vraiment devenu abordable. Donc, c'est dans nos pratiques. Et avec le temps, c'est les locataires qui restent avec nous le plus longtemps qui voient vraiment l'avantage dans la formule.
Et dans ce sens-là, c'est parce que votre organisme est à but non lucratif, contrairement à, là, je vais utiliser l'expression anglaise, là, à des slumlords, là, des gens qui possèdent des parcs immobiliers dont ils pressent le moindre dollar. Je dirais sans aucun égard aux locataires, ben vous, votre méthode n'est pas celle-là, parce que votre solide a une mission. Quand ça a été créé, c'était pour permettre d'avoir une société plus juste, si je peux dire.
Oui. Bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en grande partie, on utilise des manières de développer du privé, mais avec des objectifs sociaux. Et notamment, nous, on ne vend pas d'immeubles. Et c'est d'ailleurs dans la durée qu'il y a le plus d'avantages pour les locataires et pour Solide aussi comme propriétaire. Un immeuble qu'on a acheté il y a 25 ans, 26 logements, le premier immeuble, 26 logements, on l'a payé 560 000 $. Mais aujourd'hui, il vaut 5 fois ça. Et donc, dans la durée, il y a pour nous aussi un avantage à garder nos immeubles, à bien les entretenir, à bien traiter les locataires. Il y a un avantage réciproque entre nous et les locataires. Et donc, c'est ça. On fait ce que le privé pourrait faire, mais je choisis de ne pas faire, parce que eux, en général,
Ont des motivations autres.
Le taux de roulement, c'est entre 5 et 7 ans. Les gens achètent un immeuble, en général, c'est pour le vendre après 5 à 7 ans, pour en retirer le maximum de bénéfices et puis passer au suivant.
Combien d'immeubles vous avez en ce moment, Solide? Je sais que vous en avez dans la région de Drummondville, ça l'a fait les manchettes, là. Vous en avez acquis
Oui.
près de 400. Vous en avez à Montréal, on parlait de Longueuil tout à l'heure.
Oui, on a surtout à Châteauguay, on a 450 logements à Châteauguay. On en a à Longueuil, Lachine, Verdun et dans mon ville. Au total, c'est 1100 logements.
Oh, d'accord. Mais qui ont été acquis petit à petit, là, pas.
Oui, ça a été progressivement. Vraiment, là, 400 logements d'un coup cette année, ça c'est exceptionnel. En général, c'est plus à coup de 30 logements, 16 logements, des fois 4 logements. On a fait des très petites
D'accord.
acquisitions des fois. Et puis, bon, c'était approprié. C'est un quartier où il n'y avait que ça à vendre. Et puis, eh bien, ça nous permettait d'aider les locataires dans ce quartier-là. Mais c'est toutes sortes d'acquisitions au fil du temps. Et il y a quand même là-dedans une portion là, de logements qui ont été réalisés dans le programme Axélogie.
D'accord.
Donc, on a autour de 150 unités, 180 unités qui ont été faites avec le programme Axélogie. Donc, ça, c'est des logements qui ont été construits ou qui ont été rénovés vraiment de façon extraordinaire, là, des travaux immenses dans les immeubles dans le cadre d'un programme gouvernemental. Et dans ces logements-là, il y a 50% des loyers qui ont un supplément loyer. Donc, les
D'accord.
locataires paient
Qui sont
25% de leur revenu.
véritablement des logements sociaux au sens strict. Oui.
Oui, au centre, ben c'est comme un HLM. Ils payent le même
Exact.
loyer que dans un HLM, oui.
D'accord. Alors, quand vous faites des acquisitions, quand vous regardez le marché pour trouver des occasions, ben vous avez vos critères. Vous voulez que ce soit quelque chose que vous aurez la capacité d'absorber et de rapprocher de votre modèle dans un délai raisonnable.
Vous direz que le premier critère, c'est que ça soit utile.
OK.
Faut que l'acquisition ait un sens. Des fois, on va acheter un immeuble entre deux de nos immeubles pour pouvoir un peu remembrer ça et puis peut-être avoir des économies d'échelle sur les stationnements et puis pouvoir aménager le terrain d'une
D'accord.
façon qui est plus intéressante. D'autres fois, ça va être de vouloir accroître notre présence dans un quartier parce qu'on pense qu'il est requis, nécessaire d'avoir une présence plus, plus imposante. Faut que ça soit utile. Ensuite, ça va être avec des partenaires. On va voir quels sont les organismes communautaires du milieu. Est-ce qu'ils veulent travailler avec nous? Des fois, c'est eux qui nous demandent de travailler avec eux. Il y a différentes circonstances qui font qu'on fait des acquisitions. Je vous dirais que plus récemment, là, à la Chine, ça a vraiment été des opportunités. La ville de Montréal voulait faire ce type de projet-là. Et on a utilisé l'opportunité pour démontrer un peu à la ville quel était notre modèle.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Giguère, de nous en avoir parlé parce que quand je lisais au sujet de Solide, là, j'étais vraiment intrigué et intéressé de voir un modèle différent pour finalement atteindre les mêmes buts sociaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.